Les chroniques de la plume.
Salutations, je suis Buzz Éclair et je viens en paix.
Chef Kédé, il dit que s'il connaissait le con qui a fait sauter le pont.
Quoi?
Hein?
Pourquoi?
Parce qu'on peut le faire.
Je ferai ça toute la journée.
Ouais, je sais, je suis au courant.
Hello there.
Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices de RVM, c'est Melvin, je suis aujourd'hui accompagné de Tom, bonjour Tom.
Bonjour à vous monsieur.
De Johnny, bonjour Johnny.
Bonjour monsieur Dom.
Et de Erwan, bonjour Erwan.
Salut à tous.
Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier, on n'est pas là pour rien, on est là pour parler de quelque chose qui s'est passé en 2013, c'est cette époque-là que le phénomène commence. 2013, Neil Druckmann nous sort une révolution, excusez-moi, avec le premier volet sur PS3, complété par un DLC nommé Left Behind, puis d'une deuxième partie sur PS4 en 2020. Une série sortie cette année en 2023 adaptera l'univers de ce jeu bouleversant nommé The Last of Us. Alors, de quoi ça parle? On y suit Joel, qui est plutôt, on va dire, un homme violent, un peu froid, un peu peut-être même sadique, je pense qu'on peut dire, à cause d'un événement tragique qui se sera passé donc au début de l'épidémie, qui est la perte de sa fille, une scène qui est complètement déchirante et qui est bouleversante par la brutalité et la froideur même de cette scène. Écoutons tout de suite un petit extrait.
Hey, on a besoin d'aide.
Stop,
s'il vous plaît, c'est ma fille. Hey, je crois que sa jambe est cassée.
N'avancez pas.
Ok, nous ne sommes pas malades.
J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres?
Papa, où est oncle Tommy?
On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok?
Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef.
Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. Non.
Une scène donc d'introduction qui nous aura marqué, puisqu'elle nous montre une partie de la cruauté humaine, scène d'introduction donc complètement poignante. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois quand vous avez vu cette scène? Erwan, commence.
Bah, personnellement, moi, cette scène, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué dans le monde du jeu vidéo. Ça te met tout de suite dans le bain. Ça va te montrer que bah, dans le jeu, bah, ça va pas être tout rose, donc il y aura beaucoup d'épreuves à surmonter, quoi.
Donc ça montre directement tout l'univers noir et sombre qui est devenu le monde après cette épidémie qui ne sort d'on ne sait pas où encore. On ne sait pas d'où vient cette épidémie. Et toi, Johnny, dis-nous comment tu as vécu l'introduction, la première fois que tu l'as découvert.
Bah, moi, la première fois que je l'ai découvert, j'étais vraiment très jeune, j'avais même pas 10 ans.
Ah oui.
J'avais 9 ans, parce qu'il était sorti en 2013.
C'est ça, en 2013.
Du coup, moi, j'avais 9 ans, du coup... Et je vais pas vous cacher, moi j'étais en larmes quand j'ai vu l'introduction. Parce que
normal.
À 9 ans, c'était logique.
Ah, et puis même plus vieux, hein, je pense, on n'a pas d'âge, moi encore aujourd'hui, ouais. Très ému quand je vois cette scène.
Et du coup, bah, je rejoins ce qu'il a dit à Erwan, ça montre la cruauté humaine.
Et toi, Tom?
Moi, mon avis à apporter là-dessus, sur cette scène, c'est que Joël, il perd sa fille. Mmh. Et puis.
Jusque-là, bonne observation.
Bonne observation. Et du coup, que dire sur le militaire qui dessus n'a pas, ne montre pas son visage d'humain, plutôt d'une bête.
C'est pour ça qu'on ne le voit pas distinctement, on le voit dans l'ombre.
Ouais. C'est ça.
C'est l'ombre de l'humanité, quoi.
C'est ça, je pense que les créateurs ont voulu mettre en évidence ce détail. Puis, aucune pitié sur cette scène. Il a ouvert le feu et c'était fini.
Et je pense qu'aussi d'un côté, de son côté à lui, il avait de la pitié, mais il a reçu des ordres.
Un soldat.
Qui eux sont d'aucune pitié.
Parce qu'on le voit que ça le déchire le cœur. Il dit, mais monsieur, il y a une petite fille quand même.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Il n'est pas tout seul le garçon en face de moi.
Ouais, elle est vidée en chargeur quand même.
Je te jure.
C'est... Oui, bon, après, tu sais, quand t'es dans l'adrénaline, je pense qu'il a même pas fait attention qu'il avait vidé un chargeur, tu vois.
Après, ça se trouve, il était même pas tout seul.
Si, il était tout seul dans la scène, le militaire. Ouais, il était isolé.
Bah, ça remonte il y a longtemps, du coup.
T'inquiète. Nous avons aussi un autre personnage emblématique, qui est le personnage de Tess, donc la première alliée qu'on a avec Joël. C'est un personnage assez important qui fera et qui sera même l'élément déclencheur du lien qu'il y aura entre Joël et Ellie, par une scène marquante. Ah, on va dire encore, mais c'est la scène de mort de Tess. C'est à ce moment-là, dans l'église, je ne sais pas si chacun se rappelle de cette scène, où Tess montre à Joël que, en fait, bah, Ellie est l'espoir de l'humanité. Écoutons cet extrait ensemble.
C'est con, hein ? Donne-moi ton bras. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure, et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types, il saura où aller.
Non, 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 ça c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça.
Si, tu dois, écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy.
Merde.
Merde. Ils arrivent. Je vais les retarder, mais vous devez faire vite.
Quoi ? Alors, tu veux qu'on te laisse ici ?
Oui.
Tess, il est hors de question
J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile.
Je peux me battre.
Vas-y, pars ! Allez, fous le camp.
Allez.
Désolée, je voulais pas que ça arrive.
On y va, dépêche-toi.
Voilà donc cette magnifique scène, forte en émotion grâce à l'absence de musique, mais il y a une musique. Vous savez, c'est ce petit bruit sourd qu'on entend qui rajoute une pression oppressante. Vraiment, on se sent encerclé comme eux, en fait, dans l'église.
Ouais, c'est une petite ambiance.
Et pour moi, je l'ai interprété comme vraiment le point central du lien. Qu'ont Joël et Ellie, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec mon point de vue ?
Ouais, et franchement. Ouais.
Tout à fait d'accord.
Moi, je suis complètement d'accord et je rajouterais même que avant ça, Joël n'avait pas vraiment de but en fait. Il avait juste comme but de survivre et depuis qu'Ellie est arrivée, bah, il a des objectifs et maintenant il veut tout faire aussi pour venger Tess aussi.
Je vais faire un parallèle avec ce que tu as dit, c'est que. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une série aussi qui s'appelle The Walking Dead. Et il y a une scène où on voit un personnage observer donc ce qu'ils appellent un rôdeur dans la série. On peut juste marcher et il le fixe. Parce qu'il se sent comme lui, en fait, complètement vide de but, vide de sens. Et donc, là où je veux rebondir sur ce que tu as dit, comme tu dis que Joël n'avait pas d'objectif, n'avait plus de raison d'exister depuis le décès tragique de Sarah qui était donc sa fille. Et donc c'est pour ça, je pense que avoir trouvé Ellie, avoir cet événement marquant qu'est la mort de Tess, était peut-être malheureusement nécessaire au scénario pour la continuité de l'histoire, parce que je pense pas que Tess aurait dû survivre jusqu'à la fin du jeu.
Ouais, je pense aussi.
Et j'aimerais rajouter que depuis la mort de Tess, donc comme tu l'as dit, Erwan, Joël, qui est donc le personnage principal, va endosser le rôle d'un père assez qui va être très protecteur envers Ellie. Et il va y avoir des hauts et des bas entre les deux protagonistes. Et ça, on va le voir juste après.
Exactement. Oui, mais ne spoil pas, tu as eu le privilège d'avoir les extraits
pas
en avant-goût.
Soucis.
Mais ne spoil pas la suite des extraits, voyons.
Ouais, pas de soucis.
Et donc, voilà, comme tu le disais, il y a eu des hauts et des bas entre Joël et Ellie. Mais voilà, nous le verrons plus tard. Et donc, Ellie, Parlons-en justement, Ellie, la jeune fille qui vont devoir protéger jusqu'à une base de Luciole de l'autre bout du pays. Un road trip commence et à la fin du voyage, ne nous laisse pas indifférents, effectivement. On en parlera tout à l'heure, mais une fin, que ce soit le 1 ou le 2, impactant.
Magistral.
Voilà, magnifique. Du cinéma, moi je dis.
Ouais.
Purement, simplement du cinéma. Alors, commençons donc le débat tous ensemble. Déjà, pour commencer, quel est votre personnage préféré de The Last of Us ? Vas-y, Tom, commence.
Bah, moi, mon personnage préféré dans The Last of Us, c'est Joël. Mm-hmm. Joël, qui est une figure emblématique donc, de la série et même du jeu vidéo. C'est un personnage, en fait, qui est assez sentimental. Sentimental et qui sait, en fait, comment en fait, nous faire apprécier ce scénario, en fait, scénario du jeu vidéo.
Ouais, le premier acte, donc la partie 1 de The Last of Us, est entièrement sur les épaules de Joël, pour toi, c'est ça ?
Carrément, c'est ça.
Ok. Et toi, Johnny ?
Bah, moi, c'est un peu Joël aussi.
Joël aussi, pour les mêmes raisons ou pour des raisons complètement différentes ?
Non, c'est juste qu'il est charismatique.
Voilà, il est badass et ça suffit à tes yeux. Pas de soucis, on a le droit, hein, après tout. Oui. Et toi, Erwan ?
Moi, personnellement, bah, je vais être différent de vous. Ça va être Ellie parce que c'est vraiment c'est un personnage que tu grandis avec, en fait. Tu vois toutes les
épreuves. Toi tu l'as vu comme ça?
Ouais, j'ai vu un peu comme ça, c'est parce que j'ai joué aux deux aussi. Mm-hmm. Et donc tu grandis avec ce personnage et tu vois toutes les épreuves qu'elle traverse malgré son jeune âge.
Effectivement.
Et, le courage.
Petite parenthèse, rappelons que dans le premier jeu, Ellie n'a que 14 ans, exactement.
C'est ça, c'est pour ça. Et elle a vraiment beaucoup de courage à son âge. Elle cache beaucoup ses sentiments par rapport à Joël.
Elle a une coquille, une bulle, une façon de se protéger.
Mais malgré qu'elle soit un peu froide avec Joël, on voit qu'elle aime beaucoup, quoi.
Moi, tu vois, j'ai le même personnage préféré que toi, Erwan. Moi, c'est pareil, c'est Ellie. Parce que Ellie, pour moi, c'est la fille dont tout parent peut rêver. Moi, vraiment, Ellie, ça a été ça. Et la voir grandir dans The Last of Us Partie 2, ça a été voir l'enfant que tout parent rêve grandir, en fait.
Dans quel évoluer sens ?
Dans le sens où, en fait, moi, par exemple, à titre personnel, si je devais un jour avoir une fille, j'espère de toute ma vie pour qu'elle ressemble un peu à Ellie, qu'elle porte ses valeurs. Et je sais pas, même dans son caractère, le fun qu'elle apporte, la complicité qu'elle a avec Joël, c'est quelque chose qui fait envier cette relation père-fils qu'ils ont ensemble. C'est pour ça que pour moi, je pense que voilà, Ellie, c'est un peu la fille rêvée de chaque père, de chaque mère aussi peut-être. Et voilà, et la voir grandir dans le 2 a été un simple pur bonheur, on en parlera tout à l'heure. Je précise maintenant, dès tout de suite, nous spoilerons donc The Last of Us Partie 2, la série qu'on va parler tout à l'heure n'a pas encore évoqué donc ces axes-là de l'histoire. Donc, si vous n'avez pas vu The Last of Us Partie 2, regardez-le avant de continuer de regarder cette émission, parce que ça va spoiler. Voilà, c'était pour vous avertir du alerte spoiler. Eh bien, The Last of Us 1, The Last of Us Partie 2, quel est votre jeu préféré et pourquoi, Johnny ? Vas-y, commence.
Je sais pas quoi dire.
Est-ce que tu en as un préféré déjà des deux, ou est-ce que tu aimes les deux de la même manière ? Tu as le droit d'aimer les deux de la même manière.
Moi, perso, je préfère le 1.
Le 1 ?
Oui.
Pourquoi ?
C'est que c'est là que tout commence.
D'accord, parce que le premier, voilà, c'est le commencement de tout et c'est ça que t'aimes. Oui. T'as le droit, hein, tu sais, c'est comme, on va dire un autre exemple, les Iron Man ou beaucoup de films de trilogie, peut-être même les Fast and Furious, c'est souvent le premier qu'on aime, parce que souvent on dit que le premier, c'est le meilleur et que c'est le commencement de tout, quoi, la création de tout. Donc, je comprends ton point de vue. Et toi, Erwan ?
Moi, personnellement, je pense que c'est différent, on peut pas trop comparer. Parce que je peux parler un peu du 2.
Oui, oui, totalement. On a prévenu, on a fait l'alerte spoiler. Maintenant, on peut en parler librement.
Ok. Parce que dans le 1, c'est vraiment une histoire centrée sur Joël, sa vision des choses, et son aventure, son histoire.
Et puis une découverte du monde.
La découverte du monde. C'est ça qui fait la force un peu du 1. Et dans le 2, justement, la nouveauté, c'est que cette fois-ci, c'est la vision d'Ellie qu'on voit.
Ouais.
Et c'est vachement plus intéressant parce que c'est une autre façon de voir le monde.
C'est un peu plus intimiste.
C'est ça. Mmh. On rentre un peu plus dans la vie d'Ellie, alors que dans le 1, on n'avait pas trop
On était un compagnon.
C'est ça, exactement.
Que là, dans le 2, on est vraiment plongé dans sa tête, dans son esprit, et pas que d'ailleurs, puisqu'il n'est pas le seul personnage jouable du jeu vidéo. On a aussi le personnage de Abby, qu'on débattra tout à l'heure, ça sera une des prochaines questions, mais voilà. Et toi, Tom, le premier ou le deuxième ?
Moi, pour moi, c'est le deuxième opus.
Okay.
Le deuxième opus qui m'a le plus plu. Du coup, je rejoins ton avis, Erwan. On voit Ellie qui va prendre un semblant de maturité. Semblant de maturité et qui va en fait traverser des épreuves, comme la mort de Joël, du coup.
Mm-hmm.
Comme la mort de Joël qui a été super impactante.
Je n'osais pas le dire.
Ouais, mais moi non plus, parce qu'après, on a fait l'alerte au spoiler.
Donc... C'est ça, on a, voilà, j'ai prévenu le spoiler. Donc, c'est libre cours, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en parler sans tabou.
Donc ouais, c'est ce qui va vraiment déclencher une maturité qu'on n'aura pas vue dans le 1.
Mm-hmm.
Dans le 1, et puis les émotions que ça apporte, c'est incroyable. C'est incroyable.
Moi, par exemple, je ne saurais pas dissocier le 1 ou du 2, parce que, comme dit Johnny, le 1, c'est le commencement de tout, c'est la découverte, c'est Joël, c'est les premières peurs, les premières larmes. Moi, la fin m'aura fait théoriser sur des milliers de scénarios pour la suite. Le 2 aussi, hein, d'ailleurs, c'est ça qui est bien, c'est que les cliffhangers de The Last of Us nous laissent toujours penser à d'éventuelles suites, ou peut-être pas, parce que la fin, parfois, suffit à elle-même. La fin qui est du 2, s'il n'y a pas de partie 3, moi, ça m'embêterait énormément, parce que pour moi, il nous faut un The Last of Us partie 3, mais la fin, en soi, elle est satisfaisante aussi.
Enfin, moi, ça m'a laissé sur ma fin, perso.
Ça t'a laissé sur ta fin,
ouais, pareil.
Ah, moi, j'en veux encore.
Moi, j'avoue que, en fait, dans The Last of Us Partie 2, le seul reproche que je pourrais faire, c'était que la fin, je la comprends, je l'accepte, c'est une très bonne fin, mais c'est pas la fin que j'aurais voulu.
Ouais, c'est ça.
Pas la fin, vraiment, quand le combat est terminé, mais le combat même est, du coup, le gagnant de ce combat, qui est personne, du coup. Puisque ouais. Ellie laisse Abby s'enfuir librement avec... comment s'appelait l'enfant je sais plus. Le nom de l'enfant qui est avec Abby dans The Last of Us Partie 2. C'est un homme d'une tribu, même. On voit son île. C'est une excellente séquence avec Abby, d'ailleurs. Et pour compléter, du coup, mes propos, voilà. Et dans le 1, il y a tellement de scènes qui m'ont marqué visuellement. La scène de la girafe, magnifique. La scène, je dirais, de l'hôpital, aussi. La scène des sous-sols, où on est avec Joël, tout seul. Et on croise des colosses, des trucs de fou. Et même les fameux claqueurs. Les claqueurs... C'est le zombie stade 2, puisque le stade 1, c'est celui des coureurs. Stade 2, claqueur. Stade 3, colosse.
Un des plus représentés, hein, d'ailleurs, dans les The Last of Us.
C'est ça. Le claqueur ou le colosse ?
Le claqueur.
Le claqueur.
Par son bruit.
Petit extrait du bruit du claqueur. Voilà, vous aurez donc reconnu les premiers bruitages du générique de votre émission La Chronique de la Plume. Vous savez maintenant donc d'où ça vient.
C'est bruits qui font froid dans le dos. Hein.
C'est ça.
T'entends ça, tu stresses.
Tu te rappelles, hein, 21h dans le noir.
Ouais. Tu le joues en la difficulté la plus dure.
C'est ça. Hein.
T'as une balle dans le chargeur.
Et donc, ouais, bah, entre le 1 et le 2, est-ce que tu as retrouvé, j'ai vu que tu as regardé le personnage.
Non, j'ai pas trouvé, attends.
Non, mais après, pas de... Donc oui, le 1 ou le 2, je pense que je les mettrais au même niveau, même si je pense peut-être préférer un poil le 1, puisque le 1, je n'ai rien à lui reprocher dans l'ensemble. Le gameplay est bien, la musique est énervée, tout est excellent, tout est parfait. Mais le 2, le combat final, je ne m'attendais pas à ce que Ellie laisse Abby. Pour moi, l'une des deux devait mourir. Bah après, je préfère ça que plutôt qu'il tue Ellie, on va pas se mentir. Je pense que mon cœur ne s'en serait jamais remis. Et donc... qui a vu la série ? Déjà ici, je sais que vous deux, vous ne l'avez pas regardée. Est-ce que toi, tu l'as vu ?
J'ai vu 2 épisodes.
D'accord. Bon, bah, nous ne parlerons pas trop en détail de la série. Je donnerai un avis global pour résumer. La série The Last of Us, je dirais que c'est une bonne série, mais peut-être pas forcément une bonne adaptation, puisque c'est l'une des meilleures séries qu'on a eues en 2023, même si l'année n'est pas finie. C'est une excellente série qu'on a eue, des acteurs incroyables, même si je ne suis pas fan du jeu d'acteur de Bella Ramsey. Je ne dis pas que c'est une mauvaise actrice, je dis juste que moi, je ne reconnais pas le personnage d'Ellie en elle, puisque pour moi, Ellie, c'était le personnage innocent qui découvre une partie sombre en elle, que là, dans la série, j'ai eu plus l'impression de l'inverse. C'est une personnage sombre qui découvre de la tendresse, en fait. Mais voilà, donc pour cet avis global, j'ai aimé la série, mais j'étais pas convaincu non plus à 100%, comme beaucoup de gens l'ont crié au banger dans les Twitter, ouais, Instagram et tout ça.
Moi, personnellement, j'ai pas trop accroché, mais je pense qu'il faut que je m'y penche plus, quoi.
Après, visuellement, c'est super fidèle, par contre. C'est incroyable, la fidélité. Visuellement, c'est incroyable, ça. Par contre, je ne renierai pas cette qualité-là.
Je pense que rien ne détendra les jeux.
Je pense aussi. Autre question, Abby ou Ellie dans la partie 2? Donc, quel est le personnage pour qui vous étiez dans cette partie 2? Erwan commence.
Franchement, l'aventure avec Ellie, elle était super bien. Ça, y a rien à dire. Mais je pense que, en fait, avec Abby, la confrontation des deux histoires, ça nous permet de voir qu'il n'y a jamais un vrai méchant, en fait. Et que chacun se bat pour ses raisons.
D'accord. J'ai pas trop compris, du coup, excuse-moi, de quel côté tu étais.
Moi, je suis plus du côté d'Ellie.
D'accord, ok.
Mais tu
comprends Abby.
C'est ça, je comprends Abby, j'ai aimé jouer son...
Excuse-moi, j'ai mis du temps à monter. C'est à l'heure où on enregistre la fin de journée, c'est la fatigue. Pardonnez-moi, auditeur, auditrice, ça arrive, voilà. Même au meilleur. Je te jette des fleurs comme ça, gratuitement. Et toi, Johnny, du coup, Abby ou Ellie?
Moi, personnellement, je pourrais pas les départager.
Ah, ah. C'est ça.
C'est ça le problème.
Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'empathie pour Abby. Ouais.
On commence à s'attacher, en fait, à Abby et...
Toi aussi, Tom?
Moi, j'aurais été de l'avis plus Ellie, du coup. Parce qu'en fait, dans ses actions, elle me fait penser à Joël.
Je pense que l'état de Ellie dans la partie 2, c'est peut-être l'état qu'a été Joël après la mort de Sarah.
C'est ça. Et en fait, elle essaye de se battre. Et c'est vraiment un esprit combatif que je recherche. Et
D'ailleurs, vous aurez remarqué que la partie 1 et 2 commencent de la même manière, hein, par la perte d'un membre proche de la famille.
Bien sûr.
C'est tragique.
Ce qui nous fait mal au cœur, c'est que on joue celle qui a tué Joël, quoi.
C'est ça qui est horrible.
C'est ça qui nous donne pas envie de jouer à Abby, mais t'as pas le choix, quoi.
C'est ça, t'as pas le choix, t'as pas envie. Tu sais ce qui va, même quand tu joues une deuxième fois, tu sais ce qui va arriver. T'es en mode, mais non. Après la mort de Joël, pour en faire une parenthèse, j'étais pas convaincu. Je trouvais ça expéditif un peu sa mort.
Bah ouais, moi je trouve ça vraiment atroce, tu vois.
Non, mais je parle pas de la scène où il le tue, mais la scène où il se fait capturer.
Ah ouais.
J'ai trouvé que c'était pas le Joël qu'on a vu du premier. Je trouve qu'en fait il a retrouvé confiance en l'humanité un peu trop vite. Bon, il y a quand même une ellipse de pas mal d'années, ouais. Un bon 5-6 ans, même peut-être plus, un 10 ans.
Je pense plus, ouais.
Ouais, peut-être même 10 ans. Mm. Donc Joël, il a vieilli, puisqu'il avait,
il avait
déjà la cinquantaine d'années dans le premier, je crois, ou la soixantaine. Bref, il était très âgé, ouais, peut-être la cinquantaine. Et donc, il approche les 70 ans presque dans le 2. Donc, je comprends qu'il se soit assagi, mais qu'il fasse confiance à ce point en l'humanité, à des personnes qu'il ne connaît pas. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait très bizarre.
Après, tu vois, c'était dans l'urgence, alors ça se trouve, il n'a pas trop réfléchi, mais bon.
Regarde avec Noah et Henri.
Ouais.
C'était dans l'urgence, mais il a réfléchi, il a gardé sa méfiance tout au long.
Ouais,
c'est que vers la fin, où il commence à avoir de la complicité avec Henri. C'est Henri l'adulte, je crois.
Ouais, il me semble.
Et c'est... je crois que j'ai dit Noah, mais c'est peut-être même pas Noah, son petit frère, à Henri. Vous savez, les deux...
Ouais, je vois de qui tu parles.
Ah ouais, mais je sais plus trop.
Moi. Ouais, mais je crois que c'était Noah. Bref. Et là, il y avait de l'urgence aussi, tu vois, et je trouve que Joël, il a été beaucoup plus intelligent et beaucoup plus méfiant. Ouais. Je sais pas ce que...
Non, ouais, je suis d'accord, mais bon...
Surtout quand on sait que...
Je pense qu'il y avait besoin de ça aussi pour le scénario, tu vois.
Oui, je pense qu'ils ont voulu impacter vite pour mieux développer après.
C'est ça, exactement.
C'est peut-être... Après, moi, je voyais bien des DLC aussi à la partie 2. On va l'évoquer tout à l'heure, ça serait une question. Mais bref, n'allons pas plus vite que la musique. Pour répondre, moi, à la question, comme Tom, je pense que je serais du côté d'Ellie. Même si, comme beaucoup, je comprends totalement Abby, je ne pardonne pas le fait qu'on tue Joël. Tout simplement. Je ne peux pas, c'est au-dessus de moi, c'est au-dessus de mes moyens. Je ne peux pas lui pardonner d'avoir froidement assassiné Joël. Question suivante, le choix de Joël est-il compréhensible à la fin de la partie 1? Est-ce que, personnellement, vous aurez fait le même choix? Vas-y, Tom, commence.
Moi, je pense que je serais parti du côté de Joël. Parce que de toute façon, sur le choix de Ellie, de sauver Ellie, parce que pour moi, c'est une fille... en fait, si on se fie à la réalité, par exemple, s'il y avait une vraie apocalypse ou un truc, une vraie maladie, ça pourrait apporter un vaccin ou un truc comme ça.
Toi, tu as la vision pas perspicace, je ne saurais pas comment dire le mot objectif.
Objectif. médical, tu vois.
Raisonnable,
ouais, voilà, vraiment raisonnable, vraiment.
Je pense cet aspect médical, tu vois.
Je vois. Toi, tu verrais en sacrifier un pour en sauver des milliers, quoi.
C'est ça.
Que Joël, lui, a fait le choix d'en sacrifier des milliers pour en sauver un, mais pas sauver n'importe qui, puisque à sa place, imagine ta fille, peut-être de cœur, peut-être de sang, et en jeu.
Ouais.
Tu la sacrifierais pour le monde.
Franchement. Bah, après, comment Joël va s'en sortir? Qu'est-ce qu'il va faire, c'est ça?
Bah ouais. Après, Joël, lui, c'est compliqué puisqu'il a perdu. Il avait déjà perdu une fille. En perdre une deuxième,
c'est ça.
C'était impensable pour lui. C'était au-dessus. Il préférait mourir en essayant de la sauver que de savoir qu'il l'a abandonnée.
Est-ce qu'il s'en serait remis? Est-ce qu'on aurait eu un acte 2, un deuxième opus?
Peut-être, peut-être. Après, les théories sont nombreuses. Avec des et si, on pourrait refaire tout le scénario.
C'est ça.
Donc voilà. Toi, Johnny, comprends-tu le choix de Joël? Est-ce que tu aurais fait le même?
Moi, j'aurais totalement fait le même choix que Joël.
Par affect pour Ellie?
Oui.
D'accord.
En fait, je comprends Joël qu'il a voulu sauver sa fille de cœur. Parce qu'il a déjà perdu, comme tu as dit un instant, il a déjà perdu une fille.
C'est ça.
Du coup, moi, je me mets à sa place. En perdre une deuxième, ça serait chaud quand même.
Bah, je pense qu'aucun homme n'est capable de perdre deux filles dans sa vie. Déjà, une, c'est insurmontable. Mais alors deux, j'imagine même pas. Et toi, Erwan?
Je pense que, bah, bien sûr, le choix le plus raisonnable, ça serait de sauver l'humanité. Mais tout ce qu'on attendait, c'était vraiment qu'il sauve Ellie, quoi. On voulait vraiment pas qu'elle meure.
C'est ça.
Nous, c'était pas notre problème, quoi.
C'est ça. En tant que joueur, on voulait sauver Ellie. Ouais. Mais peut-être qu'en tant que personne impactée par l'histoire, dans la vraie vie, on aurait fait un choix tout autre.
Ouais, c'est ça.
Moi, je pense que me connaissant et me sachant par cœur, j'aurais sauvé Ellie, ouais. Peu importe. Mais je pense que je serais mort en essayant, en vrai. Genre, vraiment, dans l'escalier, j'aurais trébuché et je me serais pas relevé.
Ah non, parce que là, Joël, à ce moment-là, c'était un monstre, hein, il était invincible.
C'était Rambo.
Je te jure.
Même Rambo, il fait pas le poids à côté.
Ah ouais.
On va s'arrêter là pour les débats. Je vois qu'on arrive à la moitié de l'émission et je vais faire la critique. S'il nous reste du temps, on continuera donc les débats ensuite. Il n'y a pas de problème.
Vous êtes sur RVM 93.7. Vous êtes sur l'émission La Chronique de la Plume. Et aujourd'hui, nous parlons du jeu vidéo The Last of Us.
Parlons donc du premier jeu. Le premier jeu nous parle d'amour, ses limites et ses blessures. On a Joël marqué par la mort de sa fille et perd foi en l'humanité. Il n'a plus foi en l'avenir, tout ça bouleversé par son voyage avec Ellie. Ellie qui, comme on en a débattu, est un des meilleurs personnages du jeu et même du jeu vidéo en général. Moi, c'est un de mes personnages préférés, tout jeu vidéo confondu. Ellie, du coup, qui n'a jamais eu de famille, toutes les personnes comptant pour elle l'ont soit abandonnée, ont soit péri. Une scène nous le montre avec perfection. C'est une scène qu'il y a entre Joël et Ellie lors d'une fugue de Ellie dans la ferme, dans le village de Tommy, donc le frère de Joël. Et c'est une dispute très intéressante. Écoutons tout ça tous ensemble.
Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes? Hein? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin.
Ouais, bah, je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre, alors.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début.
Tommy connaît ce coin
mieux
que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même.
Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur? Que je finisse comme Sam, je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller
toute
seule.
Combien de fois on a failli y passer?
Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant.
Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy.
Je suis pas elle, tu sais.
Quoi?
Maria m'a dit pour Sarah...
Ellie. Là, tu t'aventures sur un terrain miné.
Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches.
Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles.
Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes, ou m'ont abandonnée. Toutes sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur.
Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père.
Une scène déchirante. On est un peu... Moi, je suis ému, personnellement, là. Je pense que vous aussi.
Oui, franchement. Ouais.
Là, vous ne pouvez pas le voir, malheureusement, auditeur, auditrice de RVM, mais on est très ému dans le studio.
On est tous en train de pleurer derrière le micro.
Ouais. C'est la doubleuse française de Ellie Adeline. Je suis désolé, j'ai oublié son nom de famille. Je sais que c'est Adeline, son prénom. C'est une excellente doubleuse qui, je pense, a fait un travail merveilleux sur le personnage d'Ellie, qui lui a donné une vraie profondeur. Cette scène le prouve, cette scène est déchirante. Cette scène montre bien la blessure de Joël, mais aussi est une référence à Riley, qui est la meilleure amie, petite amie de Ellie dans le jeu. C'est donc avec elle que Ellie va découvrir son immunité à l'infection des cordyceps. On le découvre dans cet extrait-là, qui nous provient donc du DLC Left Behind. Je ne sais pas si il est encore frais dans votre tête.
Si, moi, ça va.
Une scène encore traumatisante, pardonnez-moi, invité d'aujourd'hui, invité du soir, comme j'aimerais le dire, mais voilà, c'est une scène où Ellie et sa nouvelle petite amie Riley se sont fait mordre, et la dernière discussion qu'ils auront était celle-ci.
Qu'est-ce qu'on va devenir ?
De mon point de vue, on a deux options. Option 1. Rapide et indolore. C'est la solution de facilité. Je suis pas très fan de l'option 1. 2. On se bat. On se bat pourquoi ? On va devenir des monstres de toute façon. On a failli mourir des millions de fois jusqu'ici. Et on a 1 million de façons de mourir d'ici demain. Mais on se bat. Pour chaque seconde qu'on peut encore passer ensemble. Que ce soit 2 minutes. Ou 2 jours. On ne leur laisse pas ça. Je veux pas leur laisser ça. Je crois qu'on va juste attendre là. Tu sais, on peut se la jouer romantique et perdre la boule ensemble. Et l'option 3. Désolé.
Donc, une autre scène déchirante. Encore ému, je le pense. Là, on enchaîne. Je vous le dis, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'essaie de faire en sorte qu'on ne pleure pas trop. Mais bon, quand on parle The Last of Us, c'est compliqué.
Ouais.
Donc, une scène qu'on le voit là où Ellie va survivre, malheureusement, toute seule. Et va voir sa meilleure amie se transformer et elle non. Oui.
Je pense que cette scène, au-delà du jeu vidéo, nous apporte vraiment aussi une leçon de vie.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Pour
totalement.
Nous montrer que, en fait, la vie, faut la profiter pleinement au moment présent, parce qu'à tout moment, elle peut s'arrêter. Quoi.
C'est ça. Peut-être une minute, une seconde, un instant, mais il faut en profiter.
C'est ça.
C'est le message de... Voilà, merci de le souligner, Erwan. Ah, c'est vrai que c'est un message important de vie. Et le jeu vidéo, c'est aussi là pour ça. On ne dirait pas comme ça, mais le jeu vidéo, tout comme le cinéma et le but de ces émissions, auditeurs-auditrices, c'est aussi de vous montrer la beauté du cinéma et du jeu vidéo, qui parfois est purement et simplement, comme ici, The Last of Us du cinéma, et nous donne de magnifiques leçons de vie. Voilà.
Et en traversant tous ces jeux, tu passes par plein d'émotions différentes. Et,
totalement.
Et ça, ça vaut tout l'or du monde.
Et donc, merci Erwan. Et revenons à la scène de tout à l'heure, donc de la dispute d'Ellie et Joël. C'est deux blessures confrontées dans la scène, et à la fin, on a un lien paternel qui s'est formé, puisqu'à la fin, Joël change d'avis et décide de rester avec Ellie pour la protéger, et aussi peut-être pour lui, de manière égoïste, d'être heureux avec une personne qu'il considère comme sa propre fille, qu'il aime comme sa propre fille, et donc qui pourrait le blâmer pour ça, quoi. Donc, Joël est prêt à braver tous les dangers pour ne jamais reperdre une fille, comme on l'a évoqué tout à l'heure, quitte à sacrifier l'humanité, mentir à Ellie et tuer les lucioles et l'espoir de l'humanité pour sauver cette fille de 14 ans qui a sauvé la sienne sans le savoir. Une scène où Joël décide de mentir à Ellie. Joël a décidé de complètement massacrer, je pense que c'est le mot, les lucioles, ouais. De tous les massacrer à part un et de mentir à Ellie en lui disant qu'en fait, bah, il y avait des milliers de personnes comme elle.
Et j'ai un truc à rajouter. Bah, cet acte-là que Joël a fait, ça constitue à peu près toute l'histoire du 2.
Oui, totalement. C'est une excellente référence, ouais. Puisque Joël, quand on le joue, rentre dans la salle où il y a Ellie. Il y a trois médecins. En tant que joueur, on les bute, on se pose pas de questions. C'est mais ça. Tout ça a un événement effet papillon, moi j'appelle ça. Pour le 2, puisque un des médecins qu'on tue est le père de Abby. On en reparle tout à l'heure, mais effectivement, c'est merci de le souligner. Donc, écoutons donc l'extrait où Joël décide de mentir à Ellie dans la voiture en la ramenant de chez les lucioles. Écoutons.
Oh, c'est quoi ce truc ?
Reste calme. Le médicament fait encore effet.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
On a trouvé les lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés, il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous.
Et donc voilà comment se termine le premier jeu, avec Ellie et Joël retournant chez Tommy pour vivre une bonne dizaine d'années, je pense, heureux, jusqu'à, en 2020, arrive la partie 2. Et le deuxième jeu, lui, contrairement au premier qui nous évoquait l'amour et les limites qu'on peut lui attribuer, puisqu'il y a tout un arc poétique qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais qui est là, de l'amour, de jusqu'où on est prêt à aller par amour, est-ce qu'on est prêt à tuer pour sauver les personnes qu'on aime, est-ce qu'on est... Voilà, donc les limites de l'humanité par amour. Dans le 2, c'est la limite de l'humanité par haine et par vengeance. Jusqu'où pourrions-nous aller par colère ? Jusqu'où notre colère peut nous pousser, ou peut pousser un homme ou une femme dans le cas de Ellie ? Et donc, le deuxième jeu nous parle de haine, de vengeance. Ellie est une jeune adulte prête à tuer et à massacrer quiconque se met sur son chemin, de la vengeance. Venger Joël, la seule personne qui a toujours été là, sa seule famille. Une scène déchirante et brutale qui nous est montrée dans ce petit extrait. Écoutons ensemble et pardonnez-moi encore de la brutalité de cette scène. Je préviens les auditeurs et auditrices de RVM qui risqueraient d'être heurtés. Donc voilà, je préviens, l'extrait qui va suivre est assez violente. Écoutons.
Tu veux la même chose que moi.
Tue-le. Vite.
Joël. Lève-toi! Joël, lève-toi, putain! Pitié, fais pas ça! Pitié! Non, fais pas ça! Joël, allez, lève-toi! Non! Non!
Va au diable.
Je te fais pitié!
On entend bien la haine de Ellie à la fin en disant « Je vais tous vous buter ».
Trop marquant.
Excusez-nous, faut qu'on reprenne nos émotions.
Ça m'a choqué.
Ça nous rappelle de traumatisants souvenirs. La première fois, j'étais pas prêt. J'ai mis pause à la scène après. J'avoue, j'ai attendu une bonne demi-heure avant de reprendre le jeu, de souffler un petit peu. Ouais. C'était trop. C'était beaucoup trop.
Parce que franchement, en tant que joueur, on se dit, Joël, il était invincible.
Exactement.
Impossible. Il pouvait pas mourir.
C'était un peu notre père à nous tous. On le voyait comme un héros, on le voyait invincible. Un peu comme un enfant verrait son père, étant enfant. Et là, dans le 2, c'est la dure réalité qui nous frappe en plein visage, sans jeu de mots.
Surtout pas de cette manière.
C'est ça aussi. Surtout pas de cette manière, quoi.
Il a pas eu une mort digne de ce nom.
Non, du tout.
C'est...
Bah, décrivons un peu la scène pour nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent. En fait, ils sont dans une sorte de cave, dans un chalet. En fait, voilà, Ellie est plaquée au sol, ventre à terre, tête face à Joël. Et Ellie regarde la scène impuissante. Tommy a été assommé. Et voilà. C'est donc l'introduction de la deuxième partie du jeu. Un acte commis par Abby, mais un acte justifié, puisque, comme on l'a dit, Abby était une fille d'un médecin luciole que Joël a tué pour sauver Ellie, dans une scène un peu longue où on approfondit Marlène et son père qui se disputent au sujet d'Ellie, et donc où on a un approfondissement de personnages qui étaient en fait des PNJ total dans le 1. Et voilà, on va écouter cet extrait qui nous montre un peu le caractère en fait des personnages, et donc qui nous montre en fait que Joël a tué quelqu'un de bien en fait. Il a tué quelqu'un de bien.
C'est relié au cerveau, on n'a pas d'autre choix.
Il doit y avoir un autre moyen.
On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte.
L'hôte. C'est une enfant, pas une boîte de pétri.
Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire.
Tu veux parler de la tuer, non?
Non, je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça?
Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis, ou t'as déjà pris ta décision?
Marlène, je veux que tu sois de notre côté.
Et si c'était Abby?
Écoute, tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités... Tout ça serait justifié par cette seule action.
Si on parlait de ta fille, qu'est-ce que tu ferais?
Abby.
Je t'ai apporté à manger.
Merci, ma chérie. Écoute, Marlène.
Fais-le.
Je ne laisserai pas donc l'extrait jusqu'au bout, c'est inutile, je pense qu'on a compris le message, l'enjeu. Voilà, donc le personnage qui était le père d'Abby, un être humain qui a sacrifié ses valeurs pour essayer de sauver le monde. C'est la meilleure manière de le résumer, je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Je suis d'accord, ouais.
Je prends la parole car mes invités sont émus, encore des extraits de tout à l'heure. Je comprends, on s'en remet pas, y a pas de souci, mais voilà, l'effet The Last of Us qu'on peut recevoir, on n'en sort pas indemne, et on s'en remet jamais. Malheureusement, c'est un jeu qu'on aime, mais c'est un jeu qui nous fait du mal.
Ouais,
il aime ça, nous faire du mal, ce jeu.
On a un peu ça de ce que
c'est ça. Donc voilà, il y a donc tout cet enjeu avec Abby et Ellie, Abby qui tue Joël, et donc... Par la même occasion, Abby prive Ellie de pardonner Joël. Puisque Ellie apprend donc la vérité sur les lucioles dans la partie 2. Une dispute éclate entre les deux personnages. Et voilà, ils sont en froid. Et Ellie ne lui parle plus depuis maintenant quelques temps quand le jeu commence. Et en fait, on va apprendre la dernière discussion qu'ont eu Ellie et Joël. Et ben, on va encore pleurer, je pense. C'est parti, écoutons ça tous ensemble.
Putain, t'es vraiment un enfoiré.
Je suis pas en train d'essayer.
J'aurais dû mourir dans cet hôpital. Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu en l'air.
Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis... Je le referai, sans hésitation.
N'empêche... Je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer.
Ça serait bien.
L'amour à travers la haine. L'amour à travers les colères. L'amour à travers les disputes. Ne les restez jamais fâchés avec une personne parce qu'on ne sait jamais quand elle peut partir. Voilà tout le message qui est cet extrait. Prenez soin des gens autour de vous, des gens à qui vous tenez, des gens que vous aimez, puisqu'on ne sait pas ce que fera demain, ce qui se passera même dans une heure, dans cinq minutes. Tout peut arriver si vite. La mort de Joël en est un exemple, on trouve tellement ça expédié, tellement ça rapide, mais c'est la dure réalité de la vie et voilà ce que nous a enseigné The Last of Us. Profiter de chaque instant comme si c'était le dernier, comme nous l'a évoqué Erwan tout à l'heure, et de prendre soin des gens qui sont autour de nous et qui sont partis de notre famille, que ce soit de cœur ou de sang, peu importe, pardonnez. Ne restez jamais fâché avec quelqu'un que vous aimez. Donc voilà.
Je pense que tout ça, ça alimente aussi encore plus la haine de Ellie.
C'est ça, une haine, donc je rebondis dessus, tu vois, je suis technique. Une haine qui est même devenue une obsession telle que, qu'elle en détruit sa famille, poussée par Tommy, frère cadet de Joël, impuissant face à la mort de son frère, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Après avoir accompli sa vengeance, Abby s'attache à un petit garçon où elle aura son rôle de mentor et de famille. Donc. Et Abby qui retrouve à la fin du jeu, c'est vrai, une nouvelle famille, telle que Joël l'avait retrouvée avec Ellie, Abby l'a retrouvée avec donc ce garçon dont on ne se souvient plus le nom. Petite parenthèse, donc c'était Henry et Sam, les deux personnages que je cherchais tout à l'heure. Voilà. Mais voilà donc.
C'est Lev. Je crois que c'est Lev.
Oh, mais oui! Exactement, c'est Lev!
Lev.
Incroyable! Le retour de. Oh là 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 là! Lev, donc oui, voilà, un bon personnage, excellent personnage, qui constituera la famille, la nouvelle famille de Abby à la fin du jeu. Et voilà, comme on le dit, semblable à celle de Joël et Ellie. Ellie ne la tuera pas. Et préfère rompre ce cercle de vengeance sans fin, privé de sa famille et de guitare, un savoir transmis par Joël, puisque Ellie se fait couper les deux doigts, donc le petit doigt et celui d'à côté dans le jeu, et donc ne peut plus pratiquer la guitare. Malheureusement, donc le seul héritage de Joël, toute la symbolique est là. Mais elle décide de sauver le peu qui lui reste de sa vie et d'aller chercher sa famille, du moins. On le suppose à la fin du 3, puisque Ellie a une femme et un enfant. Donc, je ne sais plus les noms, parce que c'est pas des personnages importants, en vrai. Moi, sa copine à Ellie, j'étais pas plus attaché que ça. Elle était sympathique, mais sans plus. Alors, je trouve peut-être les personnages secondaires du 2 moins marquants que dans le premier.
Ouais, franchement, ouais. Après, est-ce qu'on peut plus se pencher un peu sur Lev ? Parce que je pense qu'il y a une histoire aussi, une grosse histoire derrière.
En rapide, on peut évoquer Lev en rapide parce qu'on a une approche de la fin.
Ok. Moi, je voulais dire que Lev, il n'a pas rencontré Abby par hasard parce que il faisait partie d'une autre tribu qui était ennemi. On n'était pas que ennemi avec Abby et sa communauté. On était ennemi aussi avec Lev et sa communauté, donc qui se nomme les Scar. Et donc, ça fait partie aussi d'une grande partie de l'histoire. Donc, Lev a perdu sa sœur. C'est ça en rapide.
Oui, en rapide.
Sa sœur. Donc, il lui restait que Abby.
Puisque son village l'a renié.
C'est ça.
C'est une histoire tragique, une scène qui était assez glauque.
Ouais,
quand on arrive chez Scar, je m'en souviens très bien, les corps qui pend, Abby cachée dans les feuillages. Ellie cachée dans les feuillages, parce qu'on les découvre aussi avec Ellie. De toute façon, les deux, je crois, le personnage croise les Scar. Et donc, voilà. The Last of Us. The Last of Us, comme jeu, c'est un genre de survival, un mélange du meilleur de The Walking Dead et de Resident Evil, avec les coureurs, les claqueurs,
les rôdeurs.
Les rôdeurs.
Les colosses.
Les colosses.
Les colosses.
Voilà, excusez-moi. Donc voilà, c'est un peu ça, voilà, The Last of Us aussi, en termes de jeu. Voilà, les colosses, évidemment, c'est quelque chose qui nous aura énormément marqué. Hein, la sortie dans la salle de gymnase. On n'était pas prêts dans le premier. Et même dans le 2, ce n'est pas un colosse, mais Abby, ce qu'elle trouve dans l'hôpital, un monstre digne de Resident Evil, d'où ma référence. Là. Oh là 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 là, le monstre à je ne sais pas combien de têtes, il est immense. Et c'est un gameplay à la troisième personne, au graphisme magnifique et aux musiques sublimes et marquantes, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Et donc, conclusion. Un scénario incroyable qui nous montre le pire retranchement de l'humanité, par la folie avec Bill ou le romantisme dans le chaos dans la série, Joël et l'amour inarrêtable d'un père, des personnages tragiques comme Sam et Henry, la haine et la colère de Ellie qui ira jusqu'à tuer une femme enceinte. On l'oublie trop souvent, mais elle a tué une femme enceinte, Ellie, dans le jeu. On ne sort pas indemne de son expérience The Last of Us, et aujourd'hui encore, je le considère comme un chef-d'œuvre du jeu vidéo qui m'aura offert le voyage le plus riche et le plus traumatisant de toute ma vie. Avez-vous quelque chose à rajouter à cette conclusion ?
Moi, j'aimerais rajouter que c'est ça, en fait, l'effet The Last of Us. Quand tu joues, tu peux pas, en fait, te dire... Tu peux pas passer, en fait, à autre chose. T'es obligé de te rappeler de la mort de Joël, de la mort de Sarah, et de plein d'effets marquants, en fait, qui nous prouvent que c'est une masterclass, en
et
fait.
Et pas que des événements traumatisants, aussi des moments magnifiques, comme la scène avec les girafes.
C'est ça.
La scène où t'as... À Ellie avec le bébé sur le tracteur, ouais, des petits, des moments émouvants,
c'est ça.
Mais positivement, c'est aussi possible dans The Last of Us.
Qui apporte une morale en fait, comme l'a dit Erwan tout à l'heure, profiter de la vie et puis des moments que cela nous offre. Et puis voilà.
Et toi, Johnny, une petite conclusion ou tout a été dit pour toi ?
Tout a été dit.
Tout a été dit. Erwan, un mot de fin ?
Moi, je pense que le jeu, faut le lancer quand t'es tout seul. Parce que si tu vois quelqu'un y jouer, je peux pas te dire que c'est un jeu qui va te changer.
Ça va pas ouais. Ça sera pas aussi prenant.
C'est ça.
Mais de toute façon, comme tout jeu vidéo, il faut le vivre manette en main.
Une fois que tu le lances, c'est fini.
C'est ça. C'est le mieux après dans l'idéal, bien sûr. Je comprends bien que un jeu vidéo ça coûte cher. The Last of Us, donc un jeu PS3 qui a été un remaster sur PS4 avec le DLC compris et un remaster une nouvelle fois sur PS5 nommé The Last of Us Partie 1. On théorise donc sur un éventuel partie 3 qui serait, d'après les rumeurs, envisagé, serait en train d'être écrit par Neil Druckmann. Donc voilà, puisque la série ayant fait un succès fulgurant, malgré ce qu'on peut en dire, rattrapera à un moment donné le jeu. Donc il faudra bien raconter la suite.
Ouais.
Et donc voilà, auditeurs, auditrices de RVM, c'était Melvin accompagné de Tom, Johnny et Erwan pour cette émission The Last of Us. Je vous remercie d'être venus, merci à vous.
Merci à toi pour l'invitation.
Merci à toi pour l'invitation.
C'était super.
C'est avec grand plaisir et je vous laisse. Au revoir et bonne soirée. Les Chroniques de la Plume.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Le roi des pirates, ce sera moi!
Pourquoi cet air si sérieux ?
Poupi, 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 poupi.